Alors bonsoir, chers écrivains, chères écrivaines, chers amis de la rencontre. La rencontre québécoise internationale des écrivains, qui est organisée sous l'égide de l'Académie des lettres du Québec, en est cette année à sa 38e édition. Ce n'est pas peu. Fondée en 1971 par M. Jean-Guy Pilon, cet événement unique en son genre au Québec et au Canada, a accueilli jusqu'à maintenant plus de 500 écrivains de 50 pays différents qui ont accepté de réfléchir au fil des ans avec des écrivains québécois sur des thèmes aussi diversifiés que l'amour, l'aveu, la beauté, la guerre ou la solitude. En 2009, nous avions retenu le thème « Mémoire ». Et cette rencontre a généré des échanges si intéressants que nous avons voulu poursuivre la réflexion en nous penchant cette année sur le futur. L'écrivain, on le sait, se fait témoin du passé, mais ne projette-t-il pas aussi dans ses livres ses espoirs et sa foi dans l'avenir, aussi bien que ses inquiétudes? Car les découvertes scientifiques récentes et les changements dans la civilisation offre aux écrivains une matière féconde pour imaginer aussi bien la catastrophe que des possibilités nouvelles pour l'être humain, la société et l'écriture. Si la rencontre a survécu toutes ces années, c'est grâce à la ténacité de ceux et celles qui, comme dans nombre d'organismes culturels au Québec, ont donné sans compter de leur temps et de leur énergie. Je pense par exemple à messieurs Jean-Guy Pilon et Jean Royer, ainsi qu'à madame Nicole Brossard, les directeurs de la rencontre qui m'ont précédé. Je veux remercier chaleureusement de leur implication et de leur complicité le comité actuel d'organisation de la rencontre, soit madame Nicole Brossard, madame Denise Desautels et Hélène Dorion, ainsi que messieurs Naïm Catan et Pierre Neveu. Comme l'an dernier, Radio Spirale mettra à votre disposition, grâce à son système de balado-diffusion, les conférences et les échanges de la rencontre. De plus, les textes des conférences seront placés sur le site Internet de l'Académie des lettres du Québec. Je tiens à vous inviter à une lecture publique demain soir à 17h30 à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, où vous pourrez entendre une dizaine d'écrivains invités à la 38e rencontre. Deux autres événements publics auront lieu. Mercredi, le 21 avril, à 20h, se tiendra une table ronde sur le futur dans le cadre du festival Métropolis Bleue et une autre table ronde aura lieu dans le cadre du marché de la poésie de Montréal. Je tiens à rappeler que la rencontre est organisée principalement grâce à des subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, de même qu'avec le soutien du Consulat général de France, du Consulat général du Mexique, de la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, de l'Institut culturel italien et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. L'UNEC, Radio Spirale, CIBL, la librairie Le Port de Tête, la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, le Festival Métropolis Bleue et le Marché de la poésie de Montréal sont partenaires de l'événement. Je remercie tous nos subventionnaires et nos partenaires de leur soutien, ainsi que messieurs Georges Leroux et Jean-Claude Corbeil, vice-président et secrétaire général de l'Académie des lettres du Québec. Merci aussi à Mme Lise Gauvin, qui a été présidente jusqu'à tout récemment. Enfin, merci aux maisons d'édition qui ont accepté de commanditer la rencontre, les éditions d'art Le Sabord, les éditions HMH, les éditions Leméac, les éditions du Norrois, et le groupe Sogides. Merci à l'Union des écrivaines et écrivains du Québec qui nous accueille ce soir. En collaboration avec la rencontre, l'UNEC vous offrira, après la conférence, un verre de l'amitié, de sorte que vous aurez l'occasion de rencontrer les écrivains invités que je désire vous présenter maintenant. Alors, d'Italie, Madame Maria Clelia Cardona. Est-ce que vous pouvez vous lever, Madame Cardona? Oui, pouvez-vous vous lever pour qu'on vous voit? Alors, Madame Silvia Eugenia Castillero du Mexique n'est pas encore arrivée et Monsieur Eric Clemens de Belgique devrait arriver sous peu. Monsieur Jean-Pierre Valeton de Suisse est ici. Madame Nathalie Filion de France est là. Monsieur Jorge Richman d'Espagne. Monsieur Jack Kegan de Belgique, qui est derrière. Est-ce que Monsieur Frédéric Gary Como est arrivé? Je ne crois pas. Il est d'Italie. Et du Québec, d'Acadie. Excusez-moi. C'est pas tout à fait... la même région. Du Québec, Madame Anne-Hélène Clich. Evelyne de la Chenelière. Antonio D'Alfonso, qui vient d'arriver. Madeleine Gagnon. Monique Proux, qui va prononcer la conférence dans quelques minutes. Jacques Rancourt. Diane Régimbald. Mauricio Segura. Et Nathalie Watten. Nous sommes particulièrement heureux et heureuses que vous ayez accepté notre invitation. Une table de vente tenue par la librairie Le Port de Tête nous permettra de nous procurer les livres des écrivains présents. Alors, je veux vous souhaiter une agréable soirée et je cède la parole à mon collègue Pierre Neveu.
Alors, bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous présenter Monique Proux, qui est une figure évidemment connue, très connue même, de la scène littéraire québécoise, à la fois comme romancière et comme auteur de nouvelles. Je dois dire qu'une chose qui m'a frappé en préparant cette petite présentation, c'est que, oui, elle est très présente, visible, Monique Proux. En même temps, ses livres, quand on constate qu'ils sont assez espacés, souvent de 4, 5, même 6 ans, ce qui me semble est un signe de persistance à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est livres durs. Et il y a là aussi la reconnaissance, je dirais, d'un ton. Et d'ailleurs, en me replongeant dans son œuvre, je me disais qu'il y a vraiment une manière, Monique Proux, qui est assez inimitable et qui est assez réjouissante, je dois dire, même si parfois les contenus sont parfois assez sombres, mais toujours traités d'une façon assez cocasse. Alors, quelques repères chronologiques quand même, puis ça fait partie des règles d'une présentation. Elle est, malgré que son œuvre soit très montréalaise, Monique Proux, elle est née à Québec, comme plusieurs d'entre vous savez. Où elle a fait ses premières armes, surtout dans l'écriture radiophonique, télévisuelle, théâtrale, avant de s'imposer vraiment, et je pense qu'on peut dater le moment où elle a percé vraiment dans le domaine littéraire, en 1983, avec un recueil de nouvelles qui a été très remarqué, « Sans cœur et sans reproche », qui a obtenu plusieurs prix. un recueil d'une vivacité d'écriture assez remarquable. Ensuite, ça a été suivi de quelques romans qui ont aussi fait leur marque. Le sexe des étoiles, en 1987. Homme invisible à la fenêtre, en 93. Alors, ces deux romans-là ont fait l'objet aussi d'adaptations cinématographiques. Le sexe des étoiles, entre autres, avec tourné par Paul Baillargeon, a connu un succès certain. C'était suivi d'un retour à la nouvelle avec Les Aurores Montréal, un autre livre très remarqué en 97, une espèce de fresque baroque et bariolée du Montréal contemporain. Et depuis cette date, deux autres romans plus récents, Le cœur est un muscle involontaire en 2002 et Champagne, le tout dernier, paru aux éditions du Boréal en 2008. Alors, je signale aussi que plusieurs de ces livres ont été, la plupart en fait, ont été traduits en anglais, notamment par le regretté Matt Cohen. Et le dernier, je crois que c'est par David Hommel et j'oublie le nom du second traducteur. Fred Reed. On peut se demander, Monique Proulx et le futur, alors qu'en est-il? Pourquoi l'inviter à parler du futur, elle qui habite superlativement le présent et dont l'affaire à première vue n'est pas, strictement parlé, l'anticipation ou la prospective? Je dirais deux choses là-dessus, je vais essayer d'être bref, je suis sûr que vous avez hâte de l'entendre. En relisant des passages de son œuvre ces derniers jours, il m'apparaissait combien cette écriture, et toute écriture en fait, mais ça, je trouvais que la prose de Monique Proulx le révélait très bien, toute prose ou toute écriture vit du futur, faute de quoi elle s'enlise, elle stagne dans une espèce d'ennui mortel. Alors que, précisément, la prose de Monique Proulx, je pense que c'est une de ses grandes caractéristiques, frémit toujours à l'extrême rebord du présent, dans une sorte, je dirais, d'excitation, qui est contagieuse d'ailleurs, qui est remplie de potentialités nombreuses, qui est remplie d'expectatives, pour le meilleur et le pire d'ailleurs, et les deux se produisent. Et du même coup, on sent, je dirais, à travers son œuvre, d'ailleurs, elle a un écrivain dans un de ses romans, je crois que c'est dans Le sexe des étoiles, qui tombe en panne d'écriture, et que pour un écrivain, tomber en panne d'écriture, c'est vraiment tomber hors du temps, c'est sûrement perdre le futur, perdre l'avenir, se retrouver dans ce qu'elle appelle la lenteur obtuse du temps, qui est peut-être plus qu'un ralentissement, un arrêt total. Deuxième remarque, et ce sera la dernière, qui tient davantage à l'univers qu'elle nous présente, qu'elle met en scène et que dans lequel nous reconnaissons nous-mêmes très souvent comme les faux héros que nous sommes dans nos propres vies, nos deuils, nos amours, nos quêtes maladroites, et c'est souvent impossible. Il me semble que sous l'œil de tendre et en même temps toujours amusé de Monique Proulx, nous apparaissons, et nous voyons dans ces personnages d'ailleurs, comme avant tout imparfaits. Elle emploie une formule au sujet d'un personnage, Florence, dans Le cœur est un muscle involontaire. Elle dit qu'elle est une forme balbutiante d'humanité. Donc, nous sommes un peu tous des brouillons à parfaire, à peaufiner, dans l'espoir de parvenir à quelque chose de présentable et de vivable, mais en sachant que le gâchis aussi est toujours possible, que nos handicaps sont peut-être insurmontables, et que le désastre physique, que ce soit l'obésité, le vieillissement, ou ces mots semblables, ou moral, ne cesse de nous menacer, de nous guetter en tout cas. Bref, je conclue en disant que l'extrême présent de Monique Proulx, dans lequel nous reconnaissons beaucoup et nous reconnaissons notre présent, nos lieux, notre ville, enfin d'une façon très très précise, nos styles de vie aussi, me paraît profondément travaillé et même souvent rongé par un futur à la fois proche et lointain. Et il me semble que c'est dans cette tension-là, qui est à la fois cocasse, un peu drôle, mais aussi souvent assez tragique, désopilante et un peu menaçante. C'est dans cette tension-là, il me semble que c'est qu'elle nous tient comme lecteur et qu'elle avance d'un livre à l'autre. Alors, c'est donc cet auteur qui nous maintient au bord du futur que j'invite à vous adresser la parole. Et ensuite, bien sûr, on pourra avoir un échange et des questions. Alors, on écoute.
En principe, j'aurais aimé vous adresser la parole debout, mais j'ai des petits problèmes de vertige, alors je voulais vous éviter l'angoisse de me voir m'affaler sur le sol, donc je tomberai de moins haut. Je veux vraiment remercier l'Académie des lettres du Québec et leur émissaire convaincante, Louise, qui de cet honneur, de vous adresser la communication inaugurale. Et je vous remercie aussi de ce que vous avez instillé en moi pendant plusieurs semaines, une forme d'angoisse profonde. Et que serait l'écrivain sans angoisse, n'est-ce pas? On se le demande. Vous entendrez peu de citations ou de références précises lors de ce texte-là. Et pourtant, il y a beaucoup de voix, beaucoup d'auteurs qui m'ont porté. Ce texte-là a été écrit grâce à de nombreuses visions, je dirais, qui m'ont accompagnée pendant non seulement les dernières semaines, les derniers mois, mais quelques années. Je vais en nommer quelques-unes. Simone Veil, François Cheng, les méditations sur la beauté, Milan Kundera, Italo Calvino, et même un essai qui s'appelle « Pas le temps » du regretté Lothar Bayer, qui a fait beaucoup pour la littérature québécoise et qui nous a fait l'honneur de s'installer à Montréal et pour y mettre fin à ses jours. Des entretiens avec Ramana Maharshi, toute une génération de penseurs, de créateurs qui écrivent en anglais et qui sont hélas peu traduits et qui en ce moment sont en train de, je dirais, de refaire le monde pour le mieux. Ken Wilber, Eckhart Tolle, Otto Scharmer. J'ai même été inspirée par Le Devoir, la presse et parfois Wikipédia. D'innombrables lectures sur la Nouvelle-France et la Fondation de Montréal, parce que c'est le sujet qui m'occupe pour mon futur lointain livre. Et même quelques films, le documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, l'horrible 2012 de je ne sais plus qui, et jusqu'au scénario d'un ami à moi, Marc Fafard, un scénario qui s'appelle « Du temps où nous étions mortels ». Donc, je remercie tous ces esprits-là pour leur apport nourricier. Donc, ceci est le fruit un peu de leur pensée, tout en étant, et bien sûr, le fruit de ma vision et de ma pratique personnelle, donc hautement subjective et sujette au désaccord. C'est bien d'être assise dans une chaise Louis quelque chose pour parler de l'avenir. Qu'adviendra-t-il de la magie terrestre, celle qui nous fait flotter dans le vide en état de grâce, à l'ombre des oiseaux et des arbres, les poumons remplis d'oxygène à peine teintés de gaz carbonique? De quoi se nourriront nos petits-enfants et leurs semblables, bien trop nombreux pour gérer en entreprise familiale les ressources amaigries et les appétits antagonistes? Vers quoi mutera ce petit pays qui n'en est jamais devenu un, et sa musique particulière isolée dans l'orchestre? Qu'adviendra-t-il de la conscience, de la pensée, de l'amour du beau, des livres? Parlons de ce qui adviendra en premier. Parlons donc de notre mort, puisque c'est précisément d'elle dont nous n'avons pas envie de parler. Nous ne savons pas que nous allons mourir. Comment épiloguer sur l'avenir? Comment investiguer sérieusement un territoire qui s'avance loin devant, alors que nous voici piétinant sur le seuil, inapte à pousser cette première porte? Nous ne savons pas que nous allons mourir, même si les corps n'arrêtent pas de tomber autour de nous. Nos aimés disparaissent, nos points de repère s'effacent, et nous nous indignons, nous nous sentons trahis, outragés par le non-sens et la brutalité de nos pertes. Mais en même temps, au milieu de nos sanglots, une petite voix triomphante continue de susurrer: ce n'est pas toi, tu vois bien, cette fois encore, ce n'est pas toi. Nous rédigeons notre testament par acquis de conscience familiale. Nous envisageons théoriquement l'avenir proche, 50 ans plus tard par exemple, comme un espace qui se vivra en toute logique sans nous, in absentia. Mais la conviction de notre unicité irremplaçable repose en secret dans la moelle de notre moi, notre moi en ce moment si vivant, si ressentant. Tous les autres, oui, y passeront peut-être, car comment savoir par expérience qu'ils ne sont pas une projection de mon esprit au lieu d'être réel? Tous les autres, mais pas moi. Bien entendu, l'idée de la mort nous dévaste sans cesse dans nos instants les plus vulnérables, dans les interstices entre deux bruits et deux occupations, les transitions entre deux projets, deux romans, l'heure angoissante du petit matin livré à l'insomnie. Et c'est pourquoi nous fuyons le silence et l'inactivité et l'insomnie à grands coups d'entreprise, de stimulation, de somnifères. L'idée de la mort ne nous aura pas, ne nous contaminera pas. Telle est notre petite victoire quotidienne. Impossible toutefois de ne pas constater que nous nous déglinguons un peu plus chaque jour. Cette multiplication de sillons dans nos chairs autrefois lisses, cet affaissement généralisé, ce blanchissement de poils tout azimuts, ces mots qui nous restent indéfiniment sur le bout de la langue parce qu'effacés de notre mémoire vive, oui, cela est préoccupant et pour tout dire, dégoûtant. Dans nos pires moments, ceux du petit matin insomniaque et des transitions, nous sommes visités par l'image terrifiante d'un tapis roulant qui nous emporte à pleine vitesse vers le gouffre, peu importe nos tentatives désespérées pour nous extraire de la mécanique emballée. Par chance, la vision déprimante passe, avalée par l'action. Par chance, il y a le gym, le botox, les oméga-3, tant d'alliés salvateurs pour nous redonner une image plus positive de la réalité, nous assurer que rien ne file à ce point sans notre consentement. Tout s'immobilisera même, pour peu que nous actionnions les bonnes commandes de la jouissance de vie renouvelable. Pendant ce temps où nous croyons nous préserver du pire en niant notre mort, notre avenir proche, nous sabotons du même coup notre faculté de façonner l'avenir lointain, l'avenir tout court. Et nous sabotons bien entendu notre présent, le seul territoire où l'action est possible. Un présent qui croit avoir tout son temps, qui n'est ému par aucune urgence, devient fatalement un terrain vague, squatté par les digressions minuscules, les mélodrames inventés qui montreront demain leur insignifiance, non sans avoir au préalable siphonné le meilleur de notre énergie. Dans ce présent vécu distraitement, nous nous trouvons happés dans des montagnes russes qui nous trimballent de grandes déprimes en petits plaisirs. Nous perdons confiance en nous-mêmes et en notre aptitude à appréhender avec justesse la réalité. Nous ne croyons pas, par exemple, que nous sommes les artisans actuels de ce qui arrivera demain. Nous nous convaincons que nous n'y pouvons rien, que tout se jouera à l'extérieur de nous, mu par des forces occultes ou maléfiques, les énergies polluantes, les gouvernements corrompus, la globalisation féroce, les technologies débridées, l'anglicisation malveillante. Par paresse ou désespoir, ce qui revient au même, nous faisons de l'avenir un bloc mystérieux complètement détaché de maintenant. Une manière de science-fiction que nous aimons imaginer la plus apocalyptique possible, puisqu'il paraît de toute façon que nous n'y serons pas. Combien nous séduisent les récits d'apocalypse ? Au moment où j'écrivais ces lignes, le film 2012 quittait l'affiche depuis quelques semaines après avoir fait courir les foules. The Road, inspiré de la méditation tragique de Cormac McCarthy sur la disparition de l'humanité, a aussi été retiré des salles. Mais déjà, on tourne pour l'an prochain World War Z, au titre prometteur. Depuis Méliès, 1902, donc depuis plus de 100 ans, les hécatombes annoncées pleuvent dans nos cinémas, agrémentées d'effets spéciaux de plus en plus chers, donc formidables. Où rien des plissements horribles de la croûte terrestre en train de se déchirer ou de recevoir dans le ventre des méga-météorites enflammées, avec comme toile de fond des milliers de petits humains galopant pour échapper à l'écrapoutissement cosmique, tels les coquerelles qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Rien, dis-je, n'est laissé à l'imagination. Last Wave, The Day After, Deep Impact, Armageddon. Spectacle splendide de tous, où on assiste en direct à notre propre extinction avec des frissons savoureux goûtant le pop-corn. Et l'on aurait bien tort de ne pas se sentir concerné ici, sous prétexte qu'il s'agit de cinéma, qui plus est de cinéma hollywoodien. Le génie des Américains, faut-il le rappeler, a toujours été de capter ce qui agite et fait saliver l'homme moyen universel, le mot « medius », « mediocrus », et de le traduire en divertissement et en objet de consommation. Chaque fin de siècle et de millénaire a réveillé ces catastrophistes. Il y a eu les interprètes des calendriers des Mayas et de la Bible. Quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Les exégètes de Nostradamus, d'innombrables babillages pseudo-scientifiques et visions de gourous illuminés, Charles Manson, Jim Jones, le Temple du Soleil, qui chaque fois ont attrapé dans leur filet des esprits raisonnables et normalement sceptiques. Plus près de nous, les témoins de Jéhovah, avec leur doux sourire fraternel et leur génie pour venir nous catéchiser jusque dans le fond des bois où on se cache, nous réitèrent patiemment et sans peur du ridicule leur date de péremption du monde. C'était en 1914, puis en 1918, 20, 25, 41, 75, 94. C'est maintenant attendu en 2012. Tiens, 2012, ils ont dû voir le film avant nous. Rappelons-nous enfin le bug du millénaire. On nous assurait qu'en cette nuit du 31 décembre 1999, tout ce qui recourt à l'informatique tomberait en panne. Les conduites de gaz exploseraient. Les avions déroutés chuteraient du ciel. Les trains entreraient en collision, sans compter nos ordinateurs domestiques qui s'enflammeraient sous nos yeux. Nous n'avons rien vu de cela, mais nous avons craint. Que nous révèle sur nous-mêmes cette incessante fascination pour l'apocalypse? Nous y trouvons certainement une catharsis à nos angoisses sociales, une voie d'évitement sur laquelle s'apaise notre frayeur de voir se concrétiser chaque jour un peu plus les menaces écologiques, économiques, terroristes qui grèvent notre avenir. La fiction banalise et rend divertissant l'inacceptable. Surtout, elle nous exclut de l'histoire. Qui est à blâmer pour l'apocalypse future? Le hasard, Dieu, des fanatiques, des astéroïdes devenus fous, des extraterrestres désœuvrés, des virus ou des monstres échappés d'un laboratoire, une usure prématurée de la croûte terrestre, tout est coupable, sauf nous. Et puisque le pire se produira de toute façon, dû à cet astéroïde, ces humanoïdes, ces choses à l'extérieur de nous, à quoi bon nous préoccuper vraiment du réchauffement climatique, par exemple, et changer en profondeur nos habitudes de gaspillage et de consommation? Notre fascination pour l'apocalypse recèle aussi certainement une forme de haine de l'humanité, un découragement suicidaire. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec notre médiocrité, que l'univers se débarrasse du germe décidément nuisible qu'est l'homme. Tabula rasa, vieux fantasme désespéré de devoir tout détruire pour tout recommencer. Car il en surnagera au moins un pour tout recommencer. Dans 2012, le film, le héros s'enfuit vers le cosmos en compagnie de sa petite amie et de quelques Richards crapuleux à bord d'une arche de Noé technologique dont est bien entendu exclue la populace de coquerelles agonisant derrière. On peut compter sur le héros, notre alter ego, qui toujours à la fin du film se faufile dans l'interstice d'immortalité pour reprendre le flambeau de l'humanité pourrie. Tous les autres, mais pas moi. Le vrai scandale dans notre fascination pour les scénarios du pire est qu'il nous conforte dans la conviction que rien n'est collectivement possible. dans cet anti-mot d'ordre qui accélère notre vieillardisation. Nous voici les bras ballants, en pleine force de l'âge, subissant ce qui s'en vient à toute vapeur, écrasés et exclus de la fabrication de l'avenir. Et pourtant, nous avons tout façonné ici-bas, ou presque de ce qui se façonne. Nous avons tout construit de nos mains et de nos neurones inventives. Nous avons mis au monde ces concepts, ces religions et ces technologies qui se retournent contre nous et semblent proclamer que nous en avons perdu le contrôle. Où cela a-t-il commencé?
Aha!
Je veux dire notre sentiment d'impuissance, notre impression d'être dépassé, de faire du surplace tandis que vrombit la vie, et surtout notre refus de mourir, qui est un refus de vivre. Le temps est une invention humaine. Dans notre conception occidentale, le temps est devenu une flèche qui file devant, qui génère son propre mouvement, qui accélère infiniment et qui commande le progrès. Ah, le progrès! Le progrès salvateur, dont la mission première est d'émanciper le genre humain. On s'entend pour faire naître au 18e siècle, c'est peut-être une chaise du 18e siècle, la notion de progrès. Au 17e siècle, on baigne encore dans les reliques du Moyen-Âge, guerre de religion, superstition et mysticisme. Mysticisme admirable, qui fait rechercher la mort plutôt que la fuir et courir ardemment vers les destinations suicidaires, telle la Nouvelle-France. Les lumières surgissent, qui éteignent tous ces feux archaïques et installent aux commandes de la société la raison, la rapide raison. La voie est tracée, la raison ne peut que vouloir le progrès et personne ne peut être contre la raison. On connaît la suite. Répétons-la quand même. Vers les révolutions industrielles, dont la plus importante à la fin du 18e siècle rêvait de provoquer une coïncidence heureuse entre l'accélération technique et le bonheur du temps humain libéré. Vers donc le train et le chemin de fer, symbole même de la vitesse qui s'emballe. Vers au monde le capitalisme et le prolétariat, géniteur direct du travail à la chaîne. À l'aide d'un tapis roulant et de gestes décomposés au maximum, il s'agit dorénavant de réduire les déplacements et la flânerie des travailleurs et d'augmenter en proportion la cadence et la rapidité d'exécution. Et voilà comment le progrès, émancipateur de l'être humain, le réduit peu à peu en esclavage. La troisième révolution industrielle survient au XXe siècle. On l'appelle bien sûr révolution informatique ou digitale. Il est difficile d'imaginer qu'encore au milieu du XIXe siècle, traverser l'Atlantique prenait sensiblement le même temps qu'en 1642 ou même qu'en 1534. Soudain, à partir de 1900, c'est le grand déboulement. En 50 ans, on voit apparaître le moteur à combustion, l'automobile, le moteur électrique, l'ampoule, le téléphone, la bombe d'uranium, le transistor, l'avion à réaction, les satellites, les fusées, les missiles et l'ordinateur. La succession foudroyante de transformations provoquées par l'ordinateur n'a pas fini de nous emporter. Il nous est impossible d'imaginer les espaces futurs où la miniaturisation, le web et le virtuel s'immisceront. De la même façon qu'était inimaginable il y a quelques années le iPhone, ce machin minuscule dans le fond de notre poche, capable à la fois de communiquer, de créer des images, d'héberger la totalité de notre univers et de nous donner un accès immédiat à tout ce qui existe. Voici donc le fruit le plus abouti du progrès, la technologie. Grâce au maître de la technologie, en qui nous remettons tous nos espoirs et toute notre âme, la flèche du temps filera toujours plus haut et plus loin, sans besoin de nous en préoccuper. Bien entendu que nous sommes dépassés. Nous étions assez compliqués pour construire la machine, dit Karl Krauss, cité par Lothar Bayer, mais nous sommes trop primitifs pour nous faire servir par elle. Seuls quelques initiés se retrouvent dans ces labyrinthes technologiques où le commun des mortels est irrémédiablement perdu. Tant pis, nous acceptons notre ignorance. Nous acceptons les dangers de dérive aux mains des forces totalitaires et commerciales et des escrocs de tout équipement. Nous avons tous été, via Internet, accédé, Facebook et autres réseaux dits sécurisés, arnaqués un jour ou contaminés par des virus, sinon nous le serons bientôt. Nous acceptons de crouler sous des avalanches de publicités marchandes aussitôt que nous ouvrons notre ordinateur. Et sans contredit, nos moindres déambulations sur le web sont enregistrées quelque part et attendent le moment opportun pour venir nous piéger. Nous l'acceptons aussi. C'est le progrès. S'il est difficile de prédire de quelles innovations inessentielles nous gratifiera la technologie dans 10 ans, il est au moins un domaine sur lequel nous pouvons être sûrs qu'elle planche en ce moment. La mort. Nous voilà presque rassurés. Car la mort, l'idée de la mort, est agaçante, même si elle n'advient qu'aux autres. Du reste, c'est une relique pique moyenâgeuse, c'est un dogme suranné. Il est grand temps d'y mettre fin. Déjà, avec Facebook, on peut maintenir virtuellement en vie, pour l'éternité, nos proches défunts. Il suffit de mémorialiser leur compte Facebook, dans lequel dorénavant pourront être déposés des messages sur ce qu'on appelle un « mur du souvenir ». Grâce à cette ritualisation virtuelle, le disparu continuera de vivre à travers son réseau. Mais bien entendu, cette survie symbolique est loin d'être satisfaisante aux yeux de nos maîtres en technologie. La véritable éternité est le but ultime, et à cet effet, tout ce dont nous avons vaguement entendu parler est en train de quitter les brumes de la science-fiction pour s'acheminer jusqu'à nous. Dans un projet de documentaire aussi fascinant que terrifiant, Marc Fafard et Antoine Robitaille suivent des scientifiques dans leur parcours rocambolesque. Ils pénètrent dans des laboratoires en Arizona et au Michigan, où se trouvent des dizaines d'hommes et de femmes en suspension cryogénique, c'est-à-dire gelés comme une balle, et ayant donné 150 000 $ de leur vivant pour qu'on les ressuscite dès qu'on en aura les moyens. Pour une somme plus modeste, 80 000 $, on vous garde uniquement votre tête. Dieu sait ce qu'on pourra en faire. Ils écoutent des génies visionnaires, Ray Kurzweil, Hugo de Garis, leur assurer que bientôt, les nanotechnologies répareront les corps endommagés, les referont plus beaux, plus jeunes, plus intelligents, en leur greffant des implants robotisés. Ils rencontrent des chercheurs affairés à mettre au point la souris Mathusalem, le précurseur de notre propre longévité interminable, et d'autres qui jonglent sérieusement avec les machines intelligentes. Kurzweil prédit qu'un processeur de 2020 aura la puissance de traitement d'un cerveau humain. Ian Pearson, futurologue à l'emploi de British Telecom, voit, lui, la conscience émerger dans la machine entre 2015 et 2020 et croit qu'on parviendra à lui inculquer des émotions. Tous sont convaincus qu'il existera un jour des organismes cybernétiques, des cyborgs, nés de la fusion entre l'homme et la machine. En attendant ces merveilles douteuses, non seulement restons-nous mortels, mais il semble de plus en plus que le temps se referme sur nous. C'est là l'un des effets majeurs de l'emballement de la technologie, de l'accélérisme, pour reprendre le néologisme de Robert Musil, dans L'homme sans qualité. Au lieu de s'acquitter de nos tâches pour nous permettre de prendre enfin nos aises dans la terre promise de la société des loisirs, la machine nous a asservis à son rythme. Nous ne prenons plus notre temps, car le temps ne se laisse plus prendre. Il est trop rare. Il va trop vite. Nous sommes appelés à nous adapter, à nous recycler chaque jour face à des mutations majeures qui, en d'autres siècles, auraient demandé aux citoyens des années d'apprivoisement. Souvent, nous voyons en une journée plus de gens que nos grands-parents en rencontraient dans un an. et nous vivons plus d'expériences en une semaine qu'ils en ont vécu dans toute une vie. Nous courons pour être efficaces, car prendre du temps à être efficace est devenu le contraire de l'efficacité. D'ailleurs, selon la jolie formule de Gunther Anders, citée par Lothar Bayer, le fait qu'une activité prenne du temps passe aujourd'hui pour du gaspillage. Même brève, elle ne le sera jamais assez. Du moment qu'elle a une durée, même limitée, elle devient retard. Les rois de ce nouveau monde sont forcément les rapides. Les rapides mangent les lents. Les lents grimperont de moins en moins haut dans l'échelle de valeur qui accompagne la flèche du temps. Bien entendu, nous, écrivains, sommes les mammouths de l'époque, broutant en bas de l'échelle. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous nous trouvions d'avance disqualifiés dans l'effervescence des médias. Contrairement aux autres artistes qui surfent sur la technologie, la plupart d'entre nous travaillons avec l'absurde lenteur, attendant en retenant notre souffle que daignent surgir des entrailles du temps les matériaux précieux de nos œuvres. Il faut dire que notre technophobie n'est pas un atout. Déjà, troquer le crayon pour l'ordinateur a constitué pour plusieurs d'entre nous une révolution formidable dont nous sommes à peine remis. Par chance, les jeunes et les aventuriers dans nos rangs ont appris à utiliser à leur fin les YouTube et les e-machins, à dompter minimalement le web pour bloguer des poèmes, diffuser des œuvres ou construire des plateformes qui leur assureront une bien meilleure visibilité que ces vieux médias poussiéreux qui lèvent le nez sur eux. Je les en félicite. Mais reste que nulle technologie n'accélérera la pensée et que le travail fondamental de l'écrivain est de penser pour écrire, de penser avant d'écrire. Et la précipitation nuit à la pensée, disait Platon, cet autre mammouth immortel. Voilà où nous en sommes dans cette partie du globe, résolument moderne et peut-être de plus en plus dépouillée de l'essentiel. Nous consentons chaque jour à cette dépossession du temps. Nous sommes complices du vol de notre espace vital de réflexion et de méditation. Nous fuyons le vide, et notre technologie l'a très bien compris, qui nous aide à ne jamais regarder en silence notre mort sans venir vers nous. Entre deux affairements, quand nous ouvrons les yeux par inadvertance, nous sommes saisis de frayeur. Quoi ? C'est là l'état de notre monde, l'état des lieux ? La dégradation semble totale, irréversible. Peu importe le bout de lorgnette empoignée, nous ne voyons que dérive. Quel sauvetage est encore possible ? Est prioritaire ? Rationalistes issus des Lumières, nous avons tout fait pour nous éloigner de la nature et la dominer. Nous avons réussi. Mais au lieu de devenir ainsi les maîtres de la biosphère, nous n'avons contribué qu'à la déglinguer. Maintenant, la défense de l'environnement s'impose comme le combat le plus urgent du moment, le plus apte à rallier les ferveurs. Copenhague a suscité son lot d'espoir et de désillusions. Le Canada honni a engrangé son poids de haine. Maintenant, qu'adviendra-t-il ? Du réchauffement climatique ou de l'homme, qui l'emportera ? Ce serait un tournoi passionnant à suivre si nous n'étions pas au centre de l'arène. Bien sûr, les petits gestes sont possibles et même obligatoires. Pour épargner les énergies fossiles, nous enfourchons nos vélos même en hiver. Nous nous agglutinons dans les transports en commun. Les chauffards qui roulent seuls ne seront bientôt plus des êtres humains valables. Nous trions, récupérons et composterons nos déchets aussitôt que possible, à défaut d'en réduire le poids. Quoi d'autre ? Ah, nous fermons le robinet quand nous nous brossons les dents. Nous maudissons les sables bitumineux de l'Alberta à voix haute et bénissons à voix basse le litre d'essence quand il plonge sous le dollar. Nous modifions notre alimentation, moitié par culpabilité, moitié par hypocondrie. Nous ne mangeons presque plus de cadavres de bœuf depuis que nous savons que le bœuf vivant broute les céréales du monde entier, pète du méthane et causerait le cancer. Maintenant, nous employons à toutes les deux phrases l'expression « empreinte écologique ». Fort bien, mais cela suffira-t-il? L'épuisement des ressources est une dérive majeure, mais c'est la distribution inéquitable des ressources existantes qui constitue depuis longtemps la plus grande dérive de notre monde. Y a-t-il une trace d'espoir que cette situation indigne change? En ce moment même, un humain sur trois vit sans électricité. Un sur cinq meurt de faim ou du sida, à moins que ce ne soit de soif. 1 milliard vacille au bord de la disette alimentaire et de la maladie et n'attend qu'un degré de plus dans le réchauffement climatique pour sombrer dans le gouffre. En ce moment même, la pauvreté décime les corps et dérègle les esprits, en Haïti, en Afrique, en Amazonie, en Asie, en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord. L'itinérance à Montréal, à -20 sous zéro, continue d'être un scandale avec lequel nous apprenons à vivre en paix, comme s'il s'agissait d'un phénomène culturel pittoresque, le festival de Montréal en lumière, le défilé des quêteux. Pendant ce temps, les banques et les banquiers recommencent à engranger les profits comme s'il n'y avait jamais eu de crise. Le capitalisme prétend redémarrer exactement comme avant, dinosaures grabataires, continuant à excréter de la production et de la consommation et traînant le monde entier vers l'abîme. On ne se scandalise pas que l'économie trône au centre de nos préoccupations sociales et collectives. Tout dans nos gouvernances est calculé en monnaie courante, tout, qu'il s'agisse de réformes d'orthographe, de santé, d'ouverture d'un musée, de chargement de neige, de projets de société ou de survie du français. Tout doit répondre, avec l'appui de la majorité, à la question suivante. Pouvons-nous nous le permettre? On ne s'irrite pas que les économistes, plutôt que les chercheurs, les scientifiques géniaux, les artistes inspirants, les philosophes, les penseurs, soient devenus les oracles de notre monde. Qu'adviendra-t-il? Puisqu'aucune idéologie de gauche n'a démontré sa validité à long terme et que nous semblons d'ores et déjà condamnés au capitalisme, y a-t-il une réforme possible qui dompterait le système et le mettrait au service de l'homme, plutôt que l'inverse? Autre menace, égale en dangerosité, qui grignote de plus en plus notre avenir. La montée des intégrismes, des certitudes inhumaines, des violences absoutes d'avance parce que dites saintes, de ces guerres de religion aussi barbares que du temps de Montaigne et que Voltaire croyait avoir éradiquées à jamais de l'histoire. Toutes les formes de dictature sont insupportables, mais la dictature religieuse nous semble la plus pernicieuse, puisqu'elle manipule les démunis, qu'elle s'empare de leurs esprits et de leurs âmes, ne laissant aucun espace au jugement critique, ni même à l'instinct de survie. Il est difficile de comprendre la motivation des attentats kamikazes qui se multiplient. Quand donc le bien, c'est-à-dire nous, société moderne et laïque issue des Lumières, l'emportera-t-il sur le mal, c'est-à-dire eux, les fanatiques religieux? Serons-nous obscurcis par eux dans nos propres murs au lieu de parvenir à les éclairer? Voilà donc à quoi nous nous exposons quand nous ouvrons les yeux. Au spectacle désolant de la planète en décrépitude, de l'humanité en souffrance et en guerre, des forces obscurantistes triomphant de la lumière. La tentation est forte de refermer les yeux et de retourner à nos petites affaires incessantes, laissant les autres, la technologie toute puissante, la pensée magique, aux prises avec les dégâts monstrueux. Ou alors de partir immédiatement en guerre contre les ennemis, les autres, l'extérieur, avec la colère et la violence des détenteurs de vérité, avec les mêmes armes manichéennes qui n'ont, jusqu'à ce jour, servi qu'à jeter davantage d'huile sur les feux. Une troisième voie est cependant possible. Nous pouvons demeurer un moment dans cet interstice de silence et de confusion, sans chercher de solution immédiate, les yeux ouverts sur les désastres et les espaces flous, assez longtemps pour y sentir le vertige, assez attentivement pour y voir se dessiner le visage annoncé de notre propre mort, entre autres choses. À vrai dire, nous connaissons cet espace immobile et vide qui sait être terrifiant. Nous le connaissons bien, nous, les écrivains ici présents, puisque c'est celui qui précède la création. Il se pourrait bien que cette troisième voie, la voie de la créativité, s'ébauchant dans le vide de l'abandon, soit la seule qui nous reste, la seule apte à nous engager favorablement dans l'avenir. Nos modèles de développement, de concentration de richesse, de production effrénée ont montré leurs limites. Notre conception du progrès non-stop et du temps flèche filante s'en trouve soudain assommée. Voilà que nous apprenons en retard que chez les Orientaux, par exemple, le temps n'a jamais été une flèche et qu'il n'y a pas de tapis roulant filant vers le gouffre. Chez eux, comme chez nos scientifiques et physiciens quantiques, tout à coup de connivence avec cet apparent irrationnel, tout est conçu en vibration, en incessant mouvement, et le temps est un cercle qui se mord la queue. L'astrophysicien et cosmologue Stephen Hawking ne craint pas d'affirmer « L'idée d'un temps linéaire, fondement de notre perception historique courante, n'est rien d'autre qu'une illusion anthropomorphique. » Et Einstein, évoquant une amie disparue, « Michel nous a quittés, mais pour nous, physiciens convaincus, cela importe peu, car nous savons que le temps est illusion. » Si le temps est illusion, qu'en est-il donc de ce qu'on appelle l'avenir? Se pourrait-il que l'avenir, au lieu d'exister à l'extérieur du présent comme un prolongement aléatoire, soit plutôt déjà inscrit dans le présent? Se pourrait-il que sans arrêt se dessinent devant nous, avec nous, les formes subtiles en train de créer ce qui arrive, et que nous soyons incapables de les déceler, trop prisonniers de nos schèmes familiers et de nos préjugés? Cette hypothèse n'est pas une fantasmagorie farfelue. Elle n'est même pas une hypothèse, puisque c'est exactement de cette manière aérienne qu'opère depuis toujours le Créateur pour créer. Dans ses meilleurs moments, le Créateur est tapi dans son silence à lui, c'est-à-dire une attention extrême. Et il attrape des intuitions qui se déroberaient autrement. Il attire des éléments disparates qui se mettent ensemble et deviennent des formes, les formes même de l'œuvre qui lui reste à transcrire. Quelque chose s'écroule, se dégrade, s'épuise lui-même, dit Vaclav Havel, pendant que quelque chose d'autre, encore indistinct, se lève des décombres. La créativité, fatalement, implique la spiritualité, qui a peu à voir avec la religion et les dogmes, mais beaucoup avec l'expérience personnelle d'une ouverture totale de l'esprit, d'une rencontre réelle avec ce passage à vide, ce blind spot d'où émerge toute pensée. Ce n'est que dans le processus créatif, dans l'état réceptif de laisser aller, let go, mais surtout de laisser venir, let come, selon la formule du chercheur Otto Scharmer, que les signes du futur possible se manifestent assez pour qu'on puisse agir sur eux. Il n'est donc pas étonnant que des milieux qui n'ont rien à voir avec l'art, affaires, management, technologie, leadership, se mettent à revendiquer et stimuler la créativité, et que des alliances inusitées se créent entre l'écologique, le social et le spirituel. Par exemple, chez Google, ce géant entre tous, on offre aux jeunes accros qui y performent un programme de méditation. Chez Apple, on vient de recevoir de Greenpeace le titre de compagnie de produits électroniques la plus verte du pays. Dans le milieu des designers industriels, on fait amende honorable pour avoir alimenté la surconsommation et on s'en va d'un mouvement irréversible vers le développement durable et l'économie propre. Une éthique se met en place, qui est en train de reformuler les structures sociales et le capitalisme, qui tente aussi de comprendre de l'intérieur les soulèvements fanatiques et religieux qui sont non seulement des témoignages de pauvreté et d'obscurantisme, mais aussi des quêtes de transcendance. L'évidence est là. Nous n'avons développé que la moitié de notre potentiel. Nous ne volons que d'une aile. Tout ce progrès extérieur effréné s'apprête à nous précipiter au sol si un progrès équivalent pour le gérer, appelons-le conscience ou sagesse, n'est pas incité à se développer à l'intérieur. Nous le sentons tous confusément, certains moins confusément que d'autres. Sporadiquement, et dans toute la planète, des mouvements s'organisent dont nous pouvons déjà sentir les effets, une vague de fond qui pourrait bien être une nouvelle révolution, la révolution de l'intérieur. Dans cette révolution de l'intérieur, la société civile serait en train de devenir une force globale pour contrer les immobilismes gouvernementaux, que l'on songe aux mouvements environnementaux, aux groupes indépendants liés aux droits de l'homme, à Avaar, qui sans cesse provoque sur le web des pétitions et des manifestations, à YouTube, Facebook, qui oblige les leaders à revenir fréquemment sur des décisions suspectes. Une classe créative serait en train de s'installer dans les franges décisionnelles de la société, et conséquemment, une éthique de générosité et d'ouverture, pour tout dire une forme de spiritualité, émergerait du no man's land aride que sont nos sociétés matérialistes. La créativité autorise tous les espoirs, y compris ceux liés à la survie des petits ensembles, des singularités dont le destin à première vue semble accessoire face aux grands enjeux interplanétaires. Je parle bien entendu du fait français en Amérique. Je parle de Montréal aussi, qui abrite en ses frontières bien des flous et des passions. Serons-nous un jour ce que nous sommes maintenant, mais en mieux? Un fait français, laïque, multiethnique et créatif, qui ne doute plus d'être indéracinable. Serons-nous installés enfin dans notre identité, où la fragilité de notre identité fait-elle partie de notre histoire, de notre tonus essentiel? Ayant déjà traversé tant d'eau troubles avec opiniâtreté, n'aurons-nous pas un jour une confiance décisive en notre possibilité créative de traverser tout ce qui pourrait se présenter? La Nouvelle-France est née de beaucoup de ferveur et s'est construite avec beaucoup d'audace. Montréal lui-même, il faut le rappeler, est un projet complètement fou. La folle entreprise, l'appelait-on dans les années 1640. Sans visée marchande, sans profit possible, sans aspiration autre qu'altruiste, qui cherchait à sauver les « sauvages » de la misère matérielle et de la damnation éventuelle. On peut ricaner à l'évocation de ces bontés prodiguées de force aux dits « sauvages », au détriment peut-être de leurs réels besoins, mais en aucun cas on ne peut remettre en question l'intégrité des intentions. Cette colonie primitive, conduite par les laïcs exceptionnels que sont Jeanne Mance, Pierre de Maisonneuve, Marguerite Bourgeois, parvient à vivre pendant près de 25 ans dans un état de sacrifice, de dépassement de soi et de ressources imaginatives qui dépassent l'entendement. Bien sûr, la petite ville, rattrapée par les lumières du vieux Louis XIV, devient finalement raisonnable et semblable aux autres, c'est-à-dire géré par les intérêts personnels et mercantiles. Mais quand même, un quart de siècle uniquement guidé par la générosité et les ressources créatives, ça ne court pas les rues de l'histoire. Nous sommes le futur de cette petite colonie de mystiques. Et nous, qui est notre futur? Il est passionnant de ne pas connaître la réponse et de s'engager avec confiance et étincelle dans la fabrication de ce qui sera. C'est ainsi que les petits organismes survivent et s'étalent. C'est aussi ainsi que nous travaillons, nous, les écrivains lents, les mammouths devenus chasseurs à force d'opiniâtreté. Nous naviguons dans un vide qui se peuple graduellement à notre contact, pourvu que nous restions fervents et ouverts. Quand nous écrivons vraiment, nous acceptons de nous mettre en veilleuse nous-mêmes. Nous oublions un temps, nos petitesses et nos peurs, pour devenir cette conscience large qui débusque avec confiance les formes à venir. Avec confiance. Sans confiance, pas de création. Même si, individuellement, nous savons avoir la chienne et manquer de ferveur, nous sommes dans nos meilleurs moments mus par une confiance fondamentale. Nous savons qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être que devant ce vide en train de nous parler. Nous avons confiance qu'il y aura toujours quelqu'un pour recevoir avec bonheur ce que nous avons traqué avec intensité. Nous ne croyons pas à la disparition du livre, à l'extinction de la littérature, puisqu'il est impossible d'imaginer qu'un univers humain ayant connu ses achèvements puisse un jour s'en passer. Nous affirmons que le livre est un objet parfait, post-moderne à jamais, qui subira des modifications de forme, bien sûr, s'aplatira sur un écran, pourquoi pas, se téléchargera dans la tête du lecteur, qui sait. L'industrie du livre révolutionnera ses manutentionnaires et ses supports, fera perdre des emplois et en gagner d'autres. Des mots comme « agrégateur » remplaceront des mots comme « distributeur ». Oui, l'industrie s'emballera, tressautera, se pourfendra peut-être, mais nous, qui n'avons jamais été bénéficiaires réels d'aucune industrie, nous continuerons de faire la seule chose que nous sachions faire, créer ce qui s'est laissé entrevoir. C'est ainsi qu'au lieu de nous trouver dépassés et à la remorque de l'époque, nous pourrions tout aussi bien revendiquer la tête du peloton. Nous sommes outillés pour naviguer sans boussole. Nous en connaissons un bout sur l'errance et le lâcher-prise. Nous serions des guides de première qualité dans la révolution qui s'amorce autour d'idées neuves et de regards frais. Il ne nous manque que la constance. Où s'en va notre attention parfaite, notre regard dépourvu de frontières, notre cohabitation fraternelle avec le vide, avec la mort, lorsque nous cessons d'écrire. Ce serait notre travail. Dans un avenir immédiat, c'est-à-dire ici et maintenant, ce serait notre travail d'étendre notre ouverture et notre audace créative à tous les actes de notre vie, de détruire le temps constamment pour mieux nous approprier l'instant. Nous savons mourir puisque nous savons écrire. Puisqu'écrire est un formidable pied de nez aux fébrilités et aux vacarmes, aux angoisses paralysantes, est un formidable présent lâché haut et fort, même s'il est en silence. Ce serait notre travail de dire « présent » chaque fois que surgit l'inquiétant « qu'adviendra-t-il ? » « Présent » devant les pronostics sombres, « présent » devant le travail immense à enclencher, « présent, présent, présent » chaque fois que le chacal de l'impuissance veut gruger nos forces vives. Présent, le poil luisant, le regard vif, présent, ardent et nous muant peu à peu, oui, Gaston Miron, en bête féroce de l'espoir. Merci.
merci, un grand merci, Monique Proulx, de nous avoir fait passer de cette conscience apocalyptique à une révolution intérieure et à ces bêtes féroces de l'espoir. Alors, écoutez, on a sûrement 15 minutes, en tout cas, d'échange possible. Vous êtes invité à intervenir. En tout cas, moi, je me demandais, en t'écoutant, quel est finalement le statut, parce que ça a commencé beaucoup avec la mort, évidemment. Bon, la mort, d'abord notre mort personnelle, avant d'ensuite parler de l'apocalypse. À la fin, dans ce présent, et aussi dans ce, quand tu as parlé du Québec, cette confiance d'être indéracinable, donc d'une certaine manière, cette confiance qu'on ne mourra pas, d'une façon, en tout cas collectivement. Est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que la création nous sauve de la mort ou au contraire nous remet face à elle autrement? Puis je me demandais comment tu voyais la place de la mort dans cette.
Mais faut-il être sauvé de la mort? Faut pas être sauvé de la mort.
Peut-être pas, non.
De toute façon, chaque fois, chaque seconde qu'on est vivant, on est vrai, on est vivant. Il y a pas, je veux dire, on est vivant à partir du moment où on prend vraiment le temps d'être. Et je pense que les créateurs, même si on se sent souvent impuissant, on a entre les mains un outil formidable pour être des êtres humains à la conscience très élargie. Parce que je crois vraiment que l'humanité a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je pense que le travail de l'évolution n'est pas du tout terminé. On pense que le cerveau humain a connu la grosseur maximale ou les dimensions qui ne peuvent plus se changer ou que, mais alors que tout est à faire. Et l'état de création est un état vraiment privilégié d'ouverture. Sans ouverture, il n'y a absolument rien de possible.
Et en même temps, en tout cas, si je reviens à ton œuvre, la conscience de la dégradation est quelque chose de très important dans ton œuvre.
Ah, mais je suis pleine de contradictions et oui. J'ai aussi peur de la mort que toi, sans doute. Oui, mais la conscience de la dégradation est une conscience salvatrice aussi, parce que il faut, je pense que surtout, bon, pour faire des histoires, c'est sûr qu'on travaille avec les névroses, nos propres névroses, les névroses des personnages. C'est ce qui est intéressant aussi de montrer de quelle façon sans arrêt on se perd. J'ai perdu ce que j'étais en train de dire.
Mais je t'attends-tu de la dégradation?
Là, la dégradation. Mais... oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait une preuve flagrante de la dégradation. Ce que je disais, les mots sur le bout de la langue. Mais je l'accepte, écoutez, je l'accepte. Là. On ne peut pas se couvrir de ridicule sans arrêt.
On en est tous là.
Oui, on en est tous là, mais... j'avais quelque chose de très important à dire sur le sujet, et puis...
Ça va peut-être revenir.
Ça va peut-être revenir. La dégradation, oui, c'est ça. La dégradation, c'est une terrible chose qui nous affecte tous et avec laquelle il faut apprendre à vivre, c'est ça. Oui, c'est une question.
Alors, oui.
D'abord, merci pour la lecture.
Il y avait,
même avec les fonds humoristiques, c'était vraiment intéressant. Moi, je me questionne à savoir de votre point de vue si la nature a besoin de l'homme ou c'est l'homme qui a besoin de la nature.
Mais déjà, on a un problème parce qu'on s'est mis à l'extérieur de la nature. C'est ça notre grand problème, parce qu'on fait partie de la nature. C'est-à-dire, l'homme est le produit le plus achevé, entre guillemets, de la nature. Dans l'évolution, il est arrivé à un moment donné à l'homme. Et notre problème majeur, c'est qu'on est à l'extérieur et on regarde ça comme un décor qu'on a envie de refaire et qu'on de temps en temps on démolit pour en changer avec un autre décor. Je veux dire, c'est un tout. Tant qu'on n'aura pas récupéré la conscience que c'est un tout, la nature et nous, je veux dire, on va toujours faire des petits échelons ici et là. Il faut vraiment savoir à quel point on forme un ensemble et qu'on s'en va tous ensemble vers le précipice. C'est ça, c'est pas la nature, nous, on est la parole de la nature, on est la conscience agissante de la nature. Dans la nature, ce serait nous qui depuis longtemps, aurait dû prendre la parole pour rectifier les choses spontanément. mais dans notre névrose collective et individuelle, on a perdu de vue l'ensemble et on est dans nos petites choses et puis on est comme des fourmis en train de construire nos petites niches sous terre.
Mais évidemment, il y a ce mouvement écologique extrême qui conclut que la nature se porterait beaucoup mieux sans nous et que, bon,
tant mieux si l'humanité disparaît. Mais ça aussi, c'est une aberration parce que, comme je dis, on est la nature aussi. C'est vraiment un tout.
Oui, quand vous parliez de la dégradation tout à l'heure, hein, j'avais l'impression que vous alliez vers l'idée que, à titre individuel, c'était inévitable, ça n'est pas si grave que ça, parce qu'on travaille sa propre mort à soi, mais est une étape importante dans la vie de l'humanité. Et si on travaille, même si on se dégrade soi-même et que la société survit, ce qu'on aura apporté fait partie d'un ensemble. Est-ce que vous pensez dans ces termes-là ou si je me trompe?
Non, je pense vraiment que c'est très important que la dégradation à l'extérieur de nous ne se fasse pas. C'est pas quand on plaisante en disant qu'on se dégrade, c'est qu'on se dégrade pas, on se transforme. On se transforme et puis, je veux dire, ce corps-là, bon, il va vivre ce qu'il y a à vivre. Mais il y a quelque chose à faire pendant qu'on est là, c'est évident. Et je veux dire, ce qu'on laisse autour de nous, c'est ça notre héritage. C'est ça le vrai héritage de si ça valait la peine qu'on soit vivant, c'est ce qu'on fait autour qui va le dire. Donc, pour moi, notre mort est quelque chose de très naturel. La mort de notre environnement n'est pas du tout naturelle. Mais nous sommes plusieurs, je pense, à vouloir ouvrir des choses et puis ça se fait. Je veux dire, on l'entend, je le lis, moi, puis je vais le répéter ailleurs sous d'autres formes. Le mieux, c'est toujours de réussir à passer ça dans la fiction parce que les thèses, finalement, il y a quelque chose d'assommant dans les thèses. Même ça, à la rigueur, tu te dis, ben ouais, mais qu'est-ce que c'est? Tandis que quand on réussit, c'est ça vraiment l'acte créateur, de réussir à entrer la vision qu'on a dans la fausse réalité de la fiction, c'est-à-dire dans la vraie, dans le fond, dans la vraie réalité, puisqu'on est tous des personnages, en quelque sorte. C'est là la réussite, mais... c'est pas toujours évident, bien sûr.
C'est peut-être une belle façon de terminer cette oui. théorie de la lumière.
Je sens que les mots...
bon, écoutez, alors, je remercie à nouveau Monique Proulx pour cette très belle ouverture de notre rencontre. Je remercie aussi le public, évidemment, qui n'est pas présent pour les séances de travail comme telles, mais d'être venu ce soir, et je signale que demain soir à 17h30, c'est bien ça, à la Maison de la Culture Mont-Royal, il y a une lecture publique d'une dizaine d'écrivains participants à la rencontre. Donc c'est l'autre événement public de cette rencontre. Alors maintenant, on a droit à un cocktail et on peut continuer à parler de créativité, de lumière, d'un tas de choses. Alors merci.